Morin.
Moi, je l'adore.
Live.
Oh. En vacances.
C'est super.
Oh. Radio X.
C'est beau, Louis, je l'ai trouvé. 88-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez sur les routes dans la grande région de Québec. C'est vendredi. Vous l'aurez deviné que c'est très, très facile ce matin. Très, très simple. Peu importe par où vous passez. Ça roule, tempête. Puis ça, on aime ça. On aime ça. Vous avez le temps de vous ramasser. Un trio de déjeuner chez Harvey's. Même de le manger. De vous rendre à la job. Vous pouvez vous acheter un Lotto Diva si vous voulez également.
C'est le conseil Morin Live Barbecue du jour. Hein?
Tout est là. Tout est là. Vous dire cependant, parce que j'ai quand même quelque chose à dire, je le ferai plus tard. Ah oui, c'est ici. Merci Camille de me l'avoir amené. Aujourd'hui, obtenez 20 fois les points chez Pharmaprix. Ouvrez l'appli PC Optimum, magasinez, scannez. Surtout, obtenez une remise de 30 % en points et conditions dans l'application. Étienne Alexandre Beauregard, comment vas-tu?
Ça va très bien, ça va très bien. Comment allez-vous?
Numéro un de passage, de passage à Québec. T'as quand même eu un gros été, hein?
Oui, 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 absolument. Pas pris beaucoup de vacances, là. Juste une petite semaine. Puis, ben, tu sais, avec l'élection et tout ça, faut rester dans le game, là.
Absolument, absolument. Puis ça va brasser, là. Ça a commencé cette semaine. On se rend compte que non seulement on ramène le référendum dans cette élection-là, c'est de ça qu'on parle depuis 3 ans. T'sais, on prépare cette élection-là en disant on ramène un référendum, mais en plus de voir toute la polarisation qu'il y a autour d'Éric Duhaime et du Parti conservateur, en plus du nouveau chef au Parti libéral, en plus de Christine Fréchette, ça va être sale, ça va jouer rough. T'appréhendes quoi comme campagne électorale?
Ben écoute, je pense que c'est déjà commencé, là. Puis ce qui est peut-être différent par rapport à 2022, c'est que cette fois-ci, on voit que le jeu est ouvert. T'sais, en 2022, je pense qu'au début de la campagne, pas mal tout le monde s'attendait déjà aux résultats. T'sais, on voyait la CAQ qui était vraiment au sommet des sondages, qu'à peu près rien pouvait les faire baisser, puis toutes les autres qui étaient autour de 15 %. De fait, c'est resté à peu près ça pendant toute la campagne. Mais là, c'est sûr que c'est vraiment différent. T'sais, sans dire qu'on est en triple égalité, t'as le Parti québécois qui est premier, mais 31, c'est pas... c'est pas le plus gros score du monde non plus.
Absolument
avoir une
pas.
Majorité à 31, ça serait pratiquement du jamais vu dans l'histoire de notre système politique. Parti libéral qui est deuxième, mais surtout chez les non-francophones, que ça veut pas dire forcément qu'ils sont en si bonne
Parti
position.
Libéral sont premiers chez les gens qui changent jamais l'équipe.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ils ont plus de misère à aller chercher du monde qui va ailleurs.
C'est là que ça devient compliqué.
Exact. Puis la CAQ qui est, bon, autour de 20 %. Mais écoute, je ne sais pas si vous avez regardé le sondage Palace d'hier un petit peu. Là. Moi, ce qui m'a fait sursauter quand même, c'est 19 au national, mais 32 chez les 65 et plus. Fait que c'est quand même...
Ah oui.
C'est que, puis quand tu as les vieux de ton bord, tu ne sais jamais ce qui peut arriver.
Les
parce que
vieux,
autres, ils votent.
Ils votent.
Exact.
S'il n'y a rien à dire, ils votent, ils vont. C'est une activité.
Ben oui.
C'est pareil comme vous autres, le 5 à 7 que vous avez une fois par trimestre ou une fois par année avec vos chums d'adolescence. Là, c'est une activité, vous y allez. Mais eux autres, la seule fois où ils sortent et qu'ils mettent leur manteau d'automne...
Aux 4 ans.
C'est pour une élection. Donc, effectivement. Ça va brasser, chose certaine. Puis, c'est moi qui est cave ou c'est tout le temps la gauche qui ramène les grands sujets desquels ils ne veulent pas entendre parler. Je veux te parler ici de l'avortement. Avortement, un sujet que c'était hors de question que ce soit prévu de parler de ça pendant la campagne électorale. Il y a déjà assez d'enjeux à traiter. Voici que certains sites obscurs de gauche sortent de vieux tweets de 2021 de Doom Dumas où il parle de l'avortement sur un questionnement qu'il y a pour finalement ramener ça dans le dossier, ramener ça dans les nouvelles, leur donner une tribune pour que tout le monde recommence à parler de ça. C'est tout le temps eux autres qui ramènent les enjeux desquels on dirait qu'ils ne veulent pas parler.
Absolument. Puis je pense sur la question de Doom Dumas, ça vaut quand même la peine de... noter un peu tout le procès qui a été fait, au sens où, quand il s'est lancé en politique, il avait supprimé ses tweets avant.
Ouais.
Justement parce que, tu sais, quand on est dans la position que nous, on est en ce moment, qu'on commande, on est obligé de prendre position sur tout. Mais quand on devient politicien, quand on rentre dans une équipe, à ce moment-là, c'est plus pareil. C'est plus toutes nos positions qu'on a eues dans l'histoire du monde. C'est, on rejoint une équipe, on dit « OK, c'est moi, je suis là pour faire ça, puis d'une certaine manière, je vais me plier un peu au... » aux positions de l'équipe, exactement. Puis c'est juste normal parce que y a personne qui est d'accord à 400% avec son parti. Puis c'est pas le même métier d'une certaine manière, même si c'est dans des sphères qui sont connexes. Puis on se souvient d'ailleurs en 2022, M. Duhaime avait beaucoup souffert du fait que plusieurs candidats n'avaient pas fait le ménage de leurs médias sociaux. Puis là, à ce moment-là, c'était juste trop facile pour les autres partis d'aller faire une petite recherche. Puis là, tu peux en beurrer des articles contre les candidats.
Même en 2018, t'sais. François Legault, le gars qui était assis sur le trône à Rimouski. C'était niaiseux comme photo. Là. C'est une photo d'un jeune adulte qui est un peu sur le party. On a tous eu une photo de même quelque part d'un autre chum ou de nous autres. Lui, il n'avait pas fait le ménage de ses médias sociaux. Puis en même temps, ça donne également la réponse parfaite à Doom. Pourquoi tu as fait le ménage de tes médias sociaux? Ben, c'est parce que je veux qu'on se concentre sur les débats qui nous intéressent réellement dans cette campagne électorale-ci en 2026.
Ben oui, exactement. Puis tu sais, bon, moi, vous savez, j'ai travaillé pour la CAQ avant. C'est comme, c'est une base quand tu vas être candidat dans un parti qui est plus professionnalisé, etc. Dis, tu supprimes tes médias sociaux, puis on fait un background check avant, parce que sinon, ben, qu'est-ce qui peut sortir, tu sais? Puis là, moi, j'ai trouvé ça étrange que justement, un candidat qui fait le due diligence, comme on dirait, qui s'arrange justement pour pas qu'il y ait trop de fils qui retroussent, quand il arrive, là, on y reproche, on dit, hey, il a supprimé ses médias sociaux, voyons donc.
On a joué dans les deux tableaux, là.
Ben, exactement. Puis là, après, on ressort des affaires, puis tout. Mais ben, tu sais, je pense qu'il a été très clair là-dessus. Il dit, moi, j'ai aucun intérêt à ouvrir ce débat-là. C'est pas pour ça que je suis en politique, point. Puis bon, M. Duhaime me dit la même chose. Il dit, regardez, c'est pas la plateforme de notre parti. S'il se présente avec nous, c'est parce qu'il endosse la plateforme, puis that's it. Mais bon, c'est sûr, encore une fois, il y en a qui ont intérêt ou qui se trouvent un intérêt à ressortir des débats que personne ne parle au Québec, tu sais.
Je sais, puis, mais en fait, c'est tout du monde qui veulent donner aucune tribune. On l'a vu avec l'histoire de Caroline Proulx, là. Ils veulent donner aucune tribune aux gens qui sont pro-vie, mais ils leur obtiennent une tribune en ramenant eux-mêmes ce sujet-là dans l'actualité. C'est là que ça devient capoté, puis c'est là que ça devient
une stratégie politique. C'est une stratégie politique, absolument. Là, je veux dire, c'est pas désintéressé, c'est pour beurrer quelqu'un. Puis,
ouais.
Bon, après, je pense que ça donne drôle aussi. Que...
C'est bizarre parce que... Je trouve ça bizarre qu'on reproche à un conservateur d'avoir des réflexions de conservateur. T'sais. Dans les gens qui ont l'intention de voter pour Éric Duhaime, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été shakés par ça là, cette semaine.
Non, sûrement. Puis je pense que... Comment dire? L'affaire, c'est que c'est vrai que c'est pas tant un débat au Québec. Mm-hmm. Je veux dire, il y a personne. Y a aucun parti politique qui veut revenir là-dessus.
Zéro.
Il n'y a pas personne. De demande politique pour ça.
On peut même pas, anyway, c'est fédéral.
Ben, il y a
un parti au Québec qui voulait, on peut rien faire.
Voilà. Fait que c'est comme toutes sortes de choses que. Ben, dans le fond, c'est juste une stratégie politique. C'est que ça. Puis, effectivement, je sais pas s'il y a beaucoup d'électeurs de M. Duhaime qui vont regarder ça, qui vont dire « Oh mon Dieu, je voterai pas pour eux autres à cause de ça. »
Par contre, les électeurs de la Grande Région de Québec, penses-tu qu'ils ont été séduits par cette annonce de troisième lien hier de Paul Saint-Pierre Plamondon?
Oui, bien c'est ça. Parce que là, M. Plamondon aussi, lui, il est dans une drôle de position. Hein, parce que il y a eu, en tout cas, après la partielle dans Jean Talon, il y a eu des très bons scores dans la région de Québec, dans les sondages et tout. Il pouvait fonder des espoirs là-dessus. Puis là... Je ne sais pas si vous avez vu aussi sa candidate, Jeanne Robin, qui est de Vivre en ville, qui se présente dans Taschereau, qui a fait un petit post qu'un candidat conservateur avait noté en disant « Ah, moi, je veux que les quartiers centraux reviennent au pouvoir. » Puis là, on arrive avec l'histoire du troisième lien transport en commun. Puis là, je me dis « Ouais, OK, ben là, bonne chance pour les candidats dans Charlebourg, Beauport, Cap-Rouge, etc. » pour aller expliquer ça qu'il faut que les quartiers centraux reviennent au pouvoir. Parce qu'on le sait, la région de Québec, c'est ça. Là, je veux dire, il y a deux réalités politiques, il y a deux visions de ce que la ville devrait devenir. Bon, clairement, parler du Parti conservateur du Québec, eux, ils ont clairement choisi leur camp. Là.
Ouais.
Manifestement, ils sont pas là pour gagner dans Taschereau. C'est pas leur siège prioritaire.
C'est sûr que les efforts dans Taschereau... Si Éric Duhaime passe par Taschereau, c'est pour passer d'une circonscription à une autre.
Mais c'est ça, tu sais. Puis là, le PQ, tu sais, qui est un parti qui voulait ratisser un peu large, qui avait certainement des espoirs au-delà de trois circonscriptions à Québec. Mais là, s'ils commencent à jouer cette game-là, je pense que ça va être un équilibre qui va être difficile pour eux, là.
Oui, puis on le voit, on l'a vu dans toutes les élections, en fait, de la Haute-Ville de Québec, tout ce qui est sur le bord du fleuve a plutôt tendance à voter. T'sais, c'est eux autres qui ont voté pour le Parti libéral au fédéral. C'est eux autres qui ont voté pour Bruno Marchand également comme maire de Québec. Donc, tu sais, on voit que ces quartiers-là, là, ce qu'on va appeler Louis-Hébert, Jean-Talon, Taschereau et
Jean-Lesage,
la circonscription de Sol, c'est des circonscriptions qui ont l'habitude un peu plus, effectivement, de voter différemment du reste de la région de Québec. C'est les deux dualités. C'est un peu comme Montréal aussi. Là. C'est la même chose. On a deux espaces de quartiers différents, deux réalités différentes. Puis c'est pour ça que c'est le fun de la démocratie en même temps. Mais effectivement, ça va être, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va défendre le troisième lien. Puis surtout, sur la rive sud de Québec. Là, sur la rive sud de Québec, hier, c'est là qu'il était Paul Saint-Pierre, en disant « On va vous mettre un train pour passer d'un centre-ville à l'autre. » Mais à Lévis, si vous allez voir... Si vous allez faire un sondage, là, ce matin, allez dans un maxi à Lévis, sortez un micro puis demandez au monde, vous imaginez quoi comme troisième lien? Eux autres, ils s'imaginent passer dessus en char. Là.
Ben, c'est clair, c'est clair. Puis c'est ça le projet, tu sais. Puis honnêtement, ça, c'est une des grandes questions en stratégie politique. C'est dans le sens que quand tu essayes d'avoir une espèce de solution mitoyenne comme ça,
ouais,
est-ce que tu réussis vraiment à contenter qui que ce soit? Parce que sur cette question-là, par exemple, Québec solidaire, super clair. On n'a pas besoin de nouvelles routes. Un pont de plus, ça n'a pas de bon sens. C'est mauvais pour le climat. Bon. Ceux qui pensent que c'est vraiment l'enfer, un troisième lien, ben, ils ont une réponse claire.
Ils n'en veulent juste pas.
Voilà.
Pas.
Je suis pas sûr qu'ils veulent un espèce d'entre-deux juste pour le transport en commun. Puis à l'inverse, ben encore une fois, avec M. Duhaime, très clair. Troisième lien, voiture, that's it.
C'est tout. C'est tout. Quelle place va prendre l'immigration dans le débat de cette campagne électorale-là?
Ben, c'est une bonne question, parce que j'ai l'impression que ça sera peut-être pas autant un sujet que ça l'a été par le passé, mais en même temps, là, par chance, le fédéral commence à agir un petit peu pour faire baisser les chiffres, puis que ça avait explosé. Là. Je veux dire, on est encore à 600 000 permis temporaires sur le territoire pour une population de 8-9 millions. Veux pas, on est dans les records mondiaux. On est très fort en matière de nombre. Puis là, on voit toujours les articles qui arrivent dans les médias de « Ah là, c'est-tu effrayant, tel permis temporaire qui n'est pas renouvelé, puis tout. » Puis en fait, bon, on aimerait rappeler des fois qu'un permis temporaire a pour vocation d'être temporaire. Puis que quand on arrive, c'est écrit là, en disant « Je m'engage à repartir quand mon permis temporaire est expiré. » Moi, des fois, je me demande même quel intérêt on a à faire des articles là-dessus à chaque jour, considérant que tout le monde devrait savoir que c'est ça. Mais c'est sûr que pour le PQ, ça va être un enjeu majeur. Je pense que pour tous ceux qui veulent parler aux électeurs nationalistes...
Ils vont se faire questionner aussi beaucoup là-dessus.
Là. Oui. Mais pour vrai, moi, là-dessus, j'espère qu'ils vont tenir leur bout. Parce que c'est effrayant ce qui s'est passé au Québec. Là, comment... Il y a pratiquement plus de contrôle là-dessus. Puis on a passé d'une situation où tu en avais, bon an, mal an, autour de 100 000 des permis temporaires sur le territoire autour de 2015-2016. Là, on est rendu à 600 000. Donc, on a-tu au moins le droit de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a sextuplé en une dizaine d'années? T'sais?
Y a-t-il une raison pour laquelle le multiculturalisme échoue de même de à ce niveau-là?
Bien, l'affaire, c'est comme en toute chose, l'immigration, ça peut être positif pour l'économie, dans certains secteurs ciblés, etc. Je pense que la plupart des gens vont le reconnaître. Néanmoins, tu peux avoir trop d'une bonne chose. Hein. Puis je pense que c'est ça qu'on voit en ce moment. Toute la question du logement, c'est ça qui a fait que le fédéral a reculé. Puis d'ailleurs, c'est le fédéral qui est en train de faire la job en ce moment, c'est pas le gouvernement du Québec. La question de l'accès aux services, veut pas, surtout au Québec, la question de l'identité, la question de la langue, tout ça, c'est des facteurs qui comptent, puis qui comptent aussi pour les électeurs. Fait que je pense que si t'es un parti qui veut parler aux francophones, qui veut parler aux nationalistes aujourd'hui, t'auras pas le choix d'arriver là-dessus. Maintenant, la question, je pense, ça va être aussi de dire comment t'es capable d'avoir une politique intelligente là-dessus, parce que des dénonciations de déchirage de chemise, on a beaucoup entendu depuis 8 ans, mais en fait, les chiffres, ils ont continué d'augmenter. Fait que rendu là, ça va être au parti aussi de nous arriver, puis de nous dire, bon, quel type de permis on va prioriser maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour les entreprises, pour les universités, etc., qui n'arrêtent pas d'en demander plus, mais qu'à un moment donné, on voit qu'il y a une limite à ça. Comment est-ce qu'on va faire ces arbitrages-là? Puis ça, c'est une question politique au sens fort. Là. Mmh. Fait que j'espère que c'est le rôle du gouvernement de faire ces arbitrages-là. On ne peut pas juste laisser tous ceux qui ont un intérêt à toujours monter les chiffres le faire de leur côté. Ça prend une coordination à ce niveau-là.
Puis en même temps, on va voir des différentes plateformes électorales nous présenter des chiffres, nous présenter des prévisions. Mais je t'écoutais cette semaine, entre autres, dire qu'on pousse également beaucoup les institutions, les collèges ou encore les universités, tous les endroits d'enseignement supérieur, à faire croire de leurs revenus par le diplôme étranger aussi.
Oui, bien ça, c'est toute une question. On a vu des événements dans les dernières semaines qui sont un peu arrivés là-dessus, notamment sur la question des fameuses usines à diplôme, là, un peu comme le Collège supérieur de Montréal, des établissements qui a quasiment juste des étudiants étrangers, qui était celui d'ailleurs à une époque où il y en avait le plus au Québec, qui donnait des formations très rapide, dont le principal avantage était de donner un accès accéléré à la citoyenneté. Fait, grosso modo, on peut dire qu'il y avait un contexte réglementaire qui permettait un modèle d'affaires où, essentiellement, tu vends la citoyenneté la plus convoitée au monde, puis tu profites de ça. Puis, tant mieux, le gouvernement a resserré la vis sur ces établissements-là qui honnêtement, avaient très peu ou pas de valeur éducative.
Là, puis non seulement ça, là, du monde qui arrivait pour étudier, puis finalement, étudiait jamais, là.
Ben c'est ça. Fait que, écoute, ben on voyait les trucs, les rapports de stage dans des établissements universitaires qui n'existaient même pas. Tu sais, c'était juste rendu de la fraude.
Ah oui.
Je veux dire, il n'y a aucune manière de défendre ça. Mais j'avoue, le point dont tu me parles, c'est que depuis 2017, on a aussi encouragé les universités, celles qui ne sont pas de la fraude, là, à aller vers le même modèle. Parce que, pour la petite histoire, avant 2017, quand tu recevais un étudiant étranger, oui, il payait plus cher que les étudiants locaux, ça, c'est normal, mais le supplément, en fait, il était mis dans une espèce de pot commun qu'on séparait à l'ensemble des universités au Québec. Fait que dans le fond, tu n'avais pas un avantage comme université direct à faire exploser tes chiffres parce que c'est pas vraiment toi
qui... Il y avait un partage de revenus.
Exactement. ça faisait en sorte que les chiffres restaient relativement bas, puis il n'y a personne qui allait dans cette course-là, parce que de toute façon, ils n'en profitaient pas directement. Puis, cela dit, quand on a changé ça avec les libéraux de M. Couillard, puis que là, maintenant, les universités tiraient 100% de ça, ben, là, il y avait un avantage direct, puis avec cette marge-là, pouvoir en profiter pour faire de l'expansion puis en rajouter plus. T'sais. Et là, évidemment, tout ça n'existerait pas sans le fameux PEC dont on n'a pas arrêté de parler, où un diplôme égale un accès accéléré à la citoyenneté. Parce que moi, je vous parie que si le PEC n'existait pas, ça serait impossible d'avoir cette source de revenus-là pour eux autres parce qu'il n'y a juste pas autant de monde qui viendrait étudier au Québec.
Oui, je comprends.
Puis, écoute, on a eu des
Puis faudrait prendre faudrait prendre l'argent des taxes et des impôts pour financer encore plus les universités. Alors, tu sais, ils sont comme pris dans un cercle vicieux.
Ben oui, exactement, exactement. Mais après, l'affaire, c'est que ça n'a pas juste été profitable. Tu sais, on l'oublie un peu, mais il y a toutes sortes d'histoires, notamment à LUCAC, là, à Chicoutimi, que... Ils ont juste ouvert, puis c'était comme connu par les consultants, puis tous les gens un peu douteux qui trouvent des manières de faire entrer du monde, là, que c'était l'université la moins sélective et tout. Fait que là, ils ont explosé, ont passé de pas beaucoup à quasiment 4000 étudiants étrangers. Mm-hmm. Et t'en as plusieurs là-dessus qu'une fois qu'ils avaient le visa pour rentrer, ils arrivaient au Québec, demandaient l'asile, se sont jamais pointés, ont jamais payé de frais de scolarité. Là, l'université était en déficit.
Ils savent même pas c'est quoi le parc des Laurentides.
Ben c'est ça. L'université est en déficit à cause de ça. Ah, fait qu'après, venez pas dire que c'est de même que vous allez vous financer. T'sais, je veux dire, d'une certaine manière, ils ont creusé leur propre tombe. Puis même chose à l'ENAP, on dirait, dans le réseau des UQ, ils l'ont vraiment échappé. Écoute, il y avait du personnel de secrétariat qui avait donné un témoignage à la presse où dit j'ai des étudiants qui viennent me voir, qui me demandent madame, c'est quoi l'ENAP? Là, tu dis, attends, tu vas dans une université, tu sais même pas c'est quoi. C'est pas sérieux. T'sais. Puis est-ce que les universités ont vraiment tiré avantage pour leur réputation, pour la qualité de l'éducation, puis même financièrement, des fois, pour ça? Je pense que c'est assez clair que la réponse, c'est non. Là.
Puis on le voit dans le palmarès des universités mondiales. Hein. Il n'y en a pas tant des universités du Québec dedans.
Non.
En fait, il n'y en a pas pantoute.
Ce qu'on a vu cet été, c'est que le problème dans un autre pan de l'économie, c'est qu'après ça, ces étudiants-là allaient dans les hôpitaux et ne payaient pas les factures. On déficite un autre secteur super important de la société parce qu'ils vont recevoir des soins, mais que la facture se paye jamais au final. Ça fait une erreur 693 sa carte de crédit.
T'es un ami de l'émission, chroniqueur dans l'émission, Étienne Alexandre. Et en plus, ce week-end, dimanche, en fait, tu participes à un sommet avec deux autres amis de l'émission, disons-le. Nicolas Gagnon et puis Gabriel Hardy. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est où? C'est le sommet des ambitions de Génération Ambition.
Oui, absolument. C'est au pavillon Charles de Coninck de l'Université de Laval, donc, mm-hmm. Qui est organisé par, comme tu disais, Génération Ambition, hein, qui est le mouvement jeune de Héloïse Coulombe et Joey Aubé,
oui.
Qui sont deux autres amis de l'émission, si je ne m'abuse.
Absolument.
et donc, c'est ça. Le but, c'est d'avoir une cinquantaine, centaine de jeunes, donc avec Gabriel Hardy et Nicolas Gagnon. On va parler de toutes sortes de choses. Je sais, Gabriel va venir parler de son expérience comme député fédéral, qu'est-ce que c'est de faire de la politique au Parlement d'Ottawa. Nicolas...
Qu'est-ce que c'est de partir de... De recrue, verte recrue à presque candidat vedette. Là. Il a joué. Il est parti de j'arrive à ma première année. C'est Patrice Bergeron, Gabriel Hardy. C'est Patrice Bergeron de la politique. Il est arrivé, on sait pas de quoi ça va donner. Puis finalement, le gars est devenu le premier centre de l'équipe.
Ah, absolument, c'est un gars qui est super engagé, qui est très bon sur les médias sociaux, puis qui est vraiment adorable en personne aussi. Là. Fait que c'est ça, Gabriel va venir nous parler de ça. Nicolas va sans doute nous parler de finances publiques. On sait, il porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables pour le Québec. Moi, je vais aller parler un peu de nationalisme, de politique sociale, genre de travail dont moi, je parle à peu près à tous les jours dans les médias. Donc, j'étudie aussi chez Cardus les questions, évidemment, qui touchent à la famille, qui touchent à l'éducation, des choses qui me sont très chères, comme vous savez. Je pense que ça va être le fun pour les jeunes de la région qui aiment la politique, qui ont le goût de venir jaser, justement, avant la campagne électorale, peut-être pour se faire une tête, pour réfléchir à tout ça. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir dimanche après-midi au pavillon Charles de Coninck.
Je te remercie infiniment d'être passé venir faire ton tour. Je te souhaite un bon week-end, une belle campagne électorale. De toute façon, on va s'en reparler, évidemment, d'ici tout ce temps-là. Merci infiniment, Étienne Alexandre. C'est toujours agréable de te
parler.
Merci. Ben, merci à vous. Bonne fin de semaine.
Bye-bye.
Tu as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.